应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 61e numéro de votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre émission prend la forme de 4 petites chroniques et notre toile sera tout d'abord illuminée par les images grandioses et solennelles proposées par Terrence Malick dans son Voyage of Time, puis elle se fera le miroir d'un Portugal rongé par la crise et la violence avec Saint-Georges de Marco Martins. Ce sera avec les yeux et bien sûr la voix d'Anastasia. Et puis, comme d'habitude, Pierre, notre sérivore, vous proposera un tour du côté des séries cette semaine, Borgia et quelques autres séries historiques. Enfin, nous finirons avec vos sorties ciné de la semaine pour fuir la chaleur de ces derniers jours de mai. Et commençons donc avec Voyage of Time de Terrence Malick. Voilà, film d'abord décrit comme un documentaire, alors j'essaierai d'expliquer pourquoi ça n'en est absolument pas un, mais en tout cas, Terrence Malick essaye dans ce film de retracer l'histoire de la vie, qui est aussi quelque part l'histoire de l'humanité, en partant depuis le début de la création de l'univers jusqu'à arriver, jusqu'à l'établissement de toute notre vie humaine actuelle, notre existence. Deux petites précisions tout d'abord, une qui concerne cette émission qui aurait dû être enregistrée avec Anna qui n'a finalement pas pu être sur l'enregistrement à cause d'un problème technique, et puis autre chose, là ça concerne directement le film. Film très particulier, déjà parce qu'il a été projeté sous une forme extrêmement originale, c'est-à-dire qu'il n'a été projeté qu'à une seule heure, un seul jour dans la France entière. Un film qui, du coup, se voyait un petit peu comme un spectacle. Il y avait une dimension d'événement, le film était projeté à un jour précis. Et même si cela est sans doute dû à des contraintes de distribution, ça mettait tout de suite une ambiance extrêmement particulière dans ce film où les gens s'étaient véritablement déplacés pour aller le voir. Un film à l'ambiance très très particulière, en effet. Alors, de toute façon, chez Terrence Malick, on s'y attend, mais même là, on atteint un nouveau sommet dans la filmographie du réalisateur. On a lu dans la critique que ça pouvait être un petit peu comme The Tree of Life, sans scénario, et il y a un petit peu de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre numéro l'an dernier sur Night of Cups, mais on avait véritablement détesté ce film. Précisément parce que Terrence Malick n'allait pas jusqu'au bout de sa démarche et raccrochait encore un petit peu ce film à une espèce d'avorton de scénario qui ne menait nulle part, qui ne ressemblait à rien, et Malick faisait encore semblant qu'il y ait un scénario à ses films. Ici, il s'en est complètement débarrassé et il crée un rythme complètement unique dans ce film parce que c'est un film qui n'est du coup plus une fiction dans le sens où il n'y a aucun schéma narratif, il n'y a pas d'histoire qui soit véritablement racontée, il n'invente pas un scénario qu'il essaye de nous montrer, mais ce film n'est absolument pas documentaire non plus, et là c'est vraiment extrêmement important pour comprendre ce film. Il ne s'agit pas de nous raconter, de nous expliquer l'histoire de la vie, quand bien même le film a été très très documenté, on le voit au générique de fin. Non, il s'agit vraiment ici, pour Terrence Malick, d'exposer, à travers le matériau filmique qu'il manipule, sa philosophie, la cosmologie, la cosmogonie qui est la sienne, qui traverse toute son œuvre, et d'une certaine façon, ce film, comme me le disait Anna, subsume toute son œuvre, toute sa vision, parce que Malick nous montre, à travers cette histoire du temps, tout ce qui a traversé, toutes les interrogations qui ont traversé ses œuvres, en particulier les dernières, et toute cette espèce de panthéisme qui traverse son œuvre et qui caractérise son rapport à l'univers tout entier. Et quel réalisateur parle plus du cosmos que Terrence Malick d'une certaine façon ? J'emploie des termes qui tendent un petit peu vers la religion, hein, le panthéisme, mais précisément, ce film est articulé comme une prière. Il s'adresse à une divinité par la voix de Cate Blanchett, qui, à plusieurs reprises, apostrophe mother, on ne sait pas exactement qui cette mère est, mais en tout cas, Terrence Malick adresse vraiment ce film comme une espèce de prière, de louange, d'incantation à une nature, un temps magnifié à travers ce film. Donc, une mère qui fait preuve d'un amour incroyable dans la beauté qu'elle prodigue tout simplement sur le monde, une beauté qui passe par la beauté de ses images, j'y reviendrai. Un amour qui est contrebalancé par une immense cruauté qui donne lieu à des scènes d'un dépouillement vraiment bouleversant. Et je pense en particulier à cette scène où l'on est sous la mer et on voit un poisson traverser l'écran, puis on se rend compte que tout un morceau de sa chair a été arraché par une loutre. Et on a ce poisson qui continue à avancer, mais est sur le point de mourir. Et cette image est véritablement bouleversante avec ce silence et puis la beauté, évidemment, des images filmées par Malick. Des images dans ce genre-là, il y en a beaucoup, et évidemment, les images sont splendides, peut-être encore plus splendides qu'elles ne l'avaient jamais été chez Malick. On parle souvent d'une esthétique National Geographic pour parler de belles images, mais là, on est bien au-delà de ça, c'est véritablement... Dire que chaque plan est un tableau et un petit peu un lieu commun, mais là on a vraiment quelque chose qui tient de ça. Il y a un travail sonore qui est extrêmement important aussi. Alors, il ne s'agit pas du tout d'être réaliste ici, hein. Une fois de plus, il n'y a pas de démarche documentaire. On a des hommes de Cro-Magnon qui sont clairement purement fantasmatiques, et c'est vraiment, une fois de plus, de l'ordre de la prière, plus que du documentaire, en tout cas au moins du poème, de l'incantation. Mais surtout dans cette esthétique, il y a un montage qui est vraiment impressionnant, et un travail sur le montage qui en fait vraiment tout l'intérêt du film quand on s'y penche un peu, avec des transitions extrêmement étonnantes, extrêmement travaillées d'une image à l'autre, alors certaines très spectaculaires, mais vraiment des enchaînements d'images qui tout de suite tissent une espèce de fil entre de fil qui traverserait l'univers entier et qui relierait un petit peu toute cette cosmologie qui la relierait à nous spectateurs. Ce fil qui tisse aussi un flux temporel, du coup, qui fait avancer toute cette dynamique du film, toutes ces images, qui leur donnent du sens. Et puis, avec ce montage, il y a aussi la mise en perspective de cette beauté et de cette cruauté universelle, comme je disais, avec notre quotidien, notre temporalité, parce que soudain interviennent des images filmées, semble-t-il, à la GoPro, un procédé qui avait déjà été utilisé par Malick. Ces images interviennent et filment juste des moments de vie un petit peu partout dans le monde, et soudain, on se retrouve au temps zéro après avoir été complètement hors du temps. Et de cette façon, ce cosmos finit par nous rejoindre, nous, par rejoindre l'humanité, à travers ces flashs, et puis aussi à la fin du film, puisque tout simplement on atteint le moment où l'humanité se construit, l'étape finale de cette grande histoire du temps selon Malick. Alors une humanité qui est à la fois très très belle, et puis qui est aussi complètement folle, comme le montre la première image du film, qui nous fait suivre des fous dans une ville. C'est à la fois la beauté et la folie de cette humanité, mais qui n'est finalement que le reflet de l'amour et de la cruauté de la nature, si on peut le dire comme ça, et si c'est bien à elle que Terrence Malick s'adresse. C'est là que le film est vraiment extrêmement touchant, c'est-à-dire que cette histoire du temps pourrait être complètement absurde, pourrait nous faire paraître totalement vain, mais non, justement, elle donne du sens à nos vies, et à ce titre, elle illustre très bien la filmographie de Malick. Peut-être qu'on comprend ce qu'il avait voulu dire avec Night of Cups qui justement nous paraissait si terriblement vain. Eh bien là, avec Voyage of Time, on sort de ce film avec l'impression que notre vie a sa place dans un univers, que les choses ont du sens. Et rarement, on avait vu un film qui crée autant de sens à un niveau si cosmique, pour le dire comme ça, puisque, une fois de plus, ce film tient véritablement de la prière. On peut dire que Terrence Malick tente de nous rapprocher d'une forme de divinité, et il semblerait qu'il y soit arrivé. En tout cas, on sort de ce film un petit peu en état de grâce. Et malheureusement, vous n'aurez sans doute pas l'occasion de le revoir très souvent en salle, puisque le film, comme je vous l'ai dit, n'a été projeté qu'une seule fois, mais j'espère que vous aurez l'occasion, chers auditeurs, si vous n'avez pas pu le voir, eh bien de voir ce film un jour. En tout cas, si vous en avez l'occasion, ne manquez pas ça. C'est vraiment un excellent moment à passer. Et tout de suite, je passe la main à Anastasia qui va nous parler de Saint-Georges de Marco Martins dans cette deuxième chronique de l'émission.
Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, je suis toute seule pour vous parler du film d'un réalisateur portugais, Marco Martins, Saint-Georges. En sortant du cinéma, je me suis dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres chroniqueurs pour discuter ce film. Mais en me préparant pour l'émission, j'ai trouvé quand même que je continuais ainsi le chemin que nous a dicté le réalisateur de ce film, en nous faisant suivre son héros d'une manière comme s'il n'y avait personne d'autre. Il s'agit donc d'un jeune boxeur qui vit au Portugal et dont la femme désire repartir au Brésil avec leur fils à cause du manque d'argent. Georges essaie de trouver de petits boulots, notamment les matchs de boxe pour lesquels il est payé, mais cela n'étant pas suffisant, il accepte une proposition de travail dans une société de recouvrement qui prospère au moment d'une grande crise économique du pays. Dès la toute première connaissance avec le film, le héros nous tourne le dos. On voit nous tourner le dos sur les affiches, on suit le héros de dos tout au long du film. Cela crée un effet de présence, on voit tout avec les yeux du héros, et en même temps, cela fait du film un espèce d'un documentaire. Le caractère documentaire est renforcé aussi par les épisodes dans lesquels le réalisateur Martins choisit de filmer non pas des acteurs professionnels, mais des gens ordinaires qui racontent leur vie, leurs histoires de licenciement, de manque d'argent, de graves problèmes sociaux. Histoires qui servent du fond à l'action du film et de la vie des gens à cette étape de l'histoire récente du Portugal. En même temps, la caméra est souvent fixé non pas sur ce que voit le héros avec ses yeux, mais sur son dos, sur sa crâne, et en nous disant aussi « Allez, je vais vous amener avec moi, mais vous serez protégés ». Effectivement, Georges est un homme bien fort et musclé, qui ne trouve pas de meilleure application à sa force que les salles de boxe. Cependant, derrière cette force se cache un drame qui le déchire et qui le fait pleurer. Il aime sa femme et son enfant, mais il n'a pas d'argent pour leur pourvoir une vie normale. Renforcé par cette volonté d'être avec sa famille, il n'a que à chercher d'autres moyens pour gagner sa vie. Et il en trouve. Les seules compagnies qui prospèrent à ce moment au Portugal, ce sont les compagnies de recouvrement qui suivent les endettés, qui forcent les portes des gens qui sont au bout de leur vie, qui ne peuvent plus payer parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argent. Georges fait partie des trois hommes en costume qui rendent des visites afin de vérifier la santé économique des endettés, de même que la fameuse Troïka européenne rend ses visites au Portugal. Le rôle de Georges est d'être présent lorsque des conversations, disons, pour faire peur aux endettés et intervenir au moment où le paiement ne peut plus attendre. Même si Georges semble se trouver maintenant de l'autre côté de la barrière, au moment où il doit véritablement appliquer sa force et battre à un homme qui ne peut plus payer, on comprend qu'en fait, les deux hommes sont mis dans cette situation par les mêmes raisons. Il n'y a pas d'opposition de force entre les deux. Il y a juste un qui peut encore résister et l'autre dont l'esprit est définitivement cassé. Dans un désordre complet, il n'y a plus de riches ou pauvres, parce que tout le monde est pauvre. C'est ainsi que les gens qui pourront encore résister, ce sont les gens avec un esprit fort. J'ai pensé à cette référence à Saint-Georges, ou tout simplement à un saint, fait par le titre du film. Selon les gens de tradition chrétienne, les saints, ce sont souvent les gens ordinaires canonisés pour leurs vertus, et plus souvent pour avoir subi des tortures en gardant leur foi et leur esprit. Dans ce sens-là, Georges, c'est quelqu'un qui arrive à subir les tortures et à continuer à croire en amour pour sa famille. La fin reste très ambiguë et on ne sait pas ce qui va arriver au héros. On a eu les signes qui marquent la fin de son histoire. On ne sait pas s'il va mourir volontairement ou se déclarer en prison ou entreprendre quelque chose d'autre, mais la musique qui intervient finalement à ce moment, la vraie musique nous donne un espoir que le héros va garder son esprit fort. Je veux conclure juste en disant que malgré l'image très forte et nette de la crise de Portugal, le film Sans Georges, c'est un film qui chante l'amour et l'humanité, quelque naïf je puisse paraître. Et je vous encourage donc, chers auditeurs et auditrices, d'aller voir ce film qui passe encore quelques jours à Lyon et qui, j'espère, va repasser le temps prochain. Je vous souhaite bonnes vacances et bonnes séances dans les salles obscures.
Et merci beaucoup Anastasia pour cette chronique sur Saint-Georges, donc, qui est en effet encore en salle, pas pour très longtemps, à Lyon, au cinéma Opéra, dans le premier arrondissement. Et puis, comme d'habitude, nous en venons aux séries au petit écran avec Pierre, notre sérivore. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi. Ted, suit up.
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool. Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Bonjour à tous mes amis sériphiles qui nous écoutent depuis déjà quelques temps maintenant. Et on profite que c'est la fin d'année pour cette fois-ci vous donner quelques conseils, par exemple pour l'été. Et je vais commencer à vous parler de Borgia, qui est une série produite par Canal+, notamment, qui date de 2011, qui est découpée en 3 saisons de 38 épisodes d'une heure. C'est une série qui a été créée par Tom Fontana, participant entre autres à créer la série Oz dans les années 90. On y trouve beaucoup d'acteurs, par exemple John Doman dans le rôle de Rodrigo Borgia, qu'on peut retrouver dans The Wire et Gotham, et plein d'autres films bien sûr, mais on trouve aussi des inconnus, Mark Ryder pour Cesare Borgia, peu connu à ce jour dans le monde des séries et du film, Isolda Dishok aussi pour Lucrèce, encore une actrice peu connue, et bien d'autres avec quelques apparitions un peu amusantes. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Borgia raconte la vie de la famille Borgia, famille italienne, enfin d'origine espagnole du Quattrocento romain, dont le père Rodrigo Borgia est devenu le pape Alexandre VI, à la suite de quelques magouilles bien connues au sein du Vatican. Alors aussi, ça raconte l'histoire de ses deux enfants, qu'il a reconnus une fois devenus pape, alors qu'au départ, ils étaient illégitimes. D'un côté, César Borgia, qui commence dans les rangs de l'Église, mais qui décide de se lancer dans la politique après une forme de bras de fer avec son père, et qui devient le César Borgia que l'on connaît, conquérant et raconté avec brio par Machiavel, que l'on retrouve de temps en temps dans la série. Mais il s'agit aussi de parler de Lucrèce Borgia, la fille, encore une fois, de Rodrigo Borgia, qui est très célèbre, elle aussi, notamment sous les traits de Guillaume Gallienne à la Comédie Française, par exemple, il y a quelques années de cela. Et donc, on trouve un portrait de ces trois personnages, ainsi que tout leur entourage, qui nous montre justement les détours de la vie romaine au Quattrocento, des conflits politiques, des conflits internationaux avec le roi de France qui s'en mêle, avec les Espagnols, etc. Et donc, cette série a réussi sur 3 saisons à vraiment raconter l'essentiel de la vie de ces personnages. Et je vous avoue, en tant que licencié d'histoire, je n'irai pas jusqu'à me dire historien, j'ai vérifié à chaque fois qu'un épisode sortait, à chaque fois que je voyais un épisode, je vérifiais ensuite dans quelques livres d'histoire, ou Wikipédia bien sûr, pour vérifier, on pourrait dire, la véracité des faits qui sont exprimés. Et il s'avère en fait que c'est plutôt historique, sauf sur quelques détails, par exemple entourant la mort du roi de France Louis XI, si je ne me trompe pas. On ne sait pas trop comment il est mort, mais la série a décidé de le montrer en train de mourir parce qu'il s'est cogné trop fort la tête à la sortie d'un jeu de paume avec César Borgia. C'est une explication plausible, c'est ça qui est bien avec cette série, c'est que c'est tout à fait plausible, même si on n'est pas sûr, parce que cette mort restera un mystère. Et donc, cette série réussit à respecter l'historicité tout en créant véritablement une série d'aventures, une série d'actions avec des vraies batailles, avec des combats, avec de la politique, avec des duels faits avec les mots, etc. Donc, On s'accroche vraiment à différents personnages, on découvre tout un univers qui se constitue autour de la famille Borgia, et on aime beaucoup les retrouver tout au long de ces 3 saisons, et ça m'a paru un peu court, 3 saisons, même si bien sûr, je ne vous spoil rien, il suffit d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire, la série se termine avec la mort d'Alexandre VI, mais aussi de César Borgia. Vous me direz, oh mon dieu, il m'a spoilé la mort des personnages, mais étant donné que ce sont des personnages historiques, évidemment qu'ils vont mourir un jour ou l'autre. Donc je vous recommande très vivement d'aller la regarder, elle est vraiment intéressante, elle est prenante aussi, mine de rien les acteurs jouent bien, l'historicité est bien recréée, on retrouve bien sûr avec brio les intérieurs de la vie romaine, mais aussi du palais papal. Et donc je vous invite à vous pencher sur cette série très intéressante, à la fois une série qui raconte la vie d'une famille déchirée par le pouvoir, et non, ce n'est pas juste un leitmotiv ridicule que l'on peut voir dans énormément de séries, c'est vraiment bien foutu, surtout qu'il y a des intrigues à plusieurs niveaux et qu'on suit des personnages qui quand même sont bien écrits, à savoir César Borgia qui a une vraie évolution tout au long de la série. Au début, on le voit vraiment être un petit scolaire religieux et il termine chef de guerre, désireux de revenir à la tête du monde entier. Et donc, cette évolution est très bien marquée tout au long des 3 saisons de ces 38 épisodes que je vous recommande d'aller voir. Mais ce n'est pas fini, parce que voilà, je veux vous parler d'historicité, de séries à aller essayer pour moi, parce que je ne les ai pas toutes vues. Essayez pour vous aussi, parce que c'est toujours bien d'avoir des séries qui se regardent tranquillement, avec de l'aventure, etc., qui se passent dans des univers différents de ce qu'on a actuellement, dans des univers plus historiques. On n'est pas obligé de se tourner vers la science-fiction, par exemple. Et donc, je vous propose ici quelques séries qui ont une historicité plus ou moins vérifiée, et qui ont toutes l'air plutôt bien, ou pas, ça dépend. Par exemple, The Borgias, à ne pas confondre avec Borgia. Elle se concentre surtout sur Alexandre VI, le pape donc, et sa vie de cour, et non pas justement la vie de César Borgia et les véritables intrigues internationales géopolitiques plus que politiques même. Par contre, je n'ai vu que des extraits, elle a l'air beaucoup plus fastueuse, beaucoup plus faite comme une série à l'image de, on pourrait dire, des grands péplums qui cherchent à montrer la décadence romaine. Donc on trouve une forme de leitmotiv qu'on a l'habitude de voir, que j'ai trouvé pas très intéressante, surtout que ça crache un peu sur l'historicité pour faire place au spectacle, ce que je n'ai pas trop apprécié parce que justement Borgia réussit à mêler spectacle et histoire. Après, je vous recommande aussi Vikings, que je n'ai pas encore vu intégralement, mais qui pour l'instant est particulièrement excellente dans la réalisation, dans les acteurs, mais aussi dans l'écriture du scénario, ce qui est très important, sachant qu'elle s'adapte d'une épopée plus que d'une véritable histoire d'un roi viking qui a véritablement attaqué Paris. Et donc, on suit la montée en grade, on va dire, de ce viking, commençant en simple paysan et finissant en roi des vikings. Je vous le recommande donc vivement, même si moi-même, je ne l'ai pas fini. Je me penche aussi sur la série Les Tudors, que je n'ai pas vue, mais dont on m'a dit beaucoup de bien, même si, bien sûr, encore une fois, l'historicité disparaît au profit du spectacle, au profit des intrigues, cette fois-ci pas juste politiques, mais aussi sexuelles, qu'on pourrait dire proches de Game of Thrones version actuelle. Et donc, je vous avoue que personnellement, je ne vais pas me pencher sur cette série parce que j'ai été rassasié avec Borgia et que j'ai mieux à faire de cet été niveau série. Sur ce, je vous souhaite un très bon été et on se retrouve très rapidement.
Merci beaucoup Pierre donc pour cette chronique et puis nous terminons comme d'habitude de votre émission de cinéma par quelques idées de sorties pour cette semaine. Alors les premières sorties cannoises commencent à arriver en salle, hein. Vous pourrez voir L'amant d'un jour de Philippe Garrel, il semblerait que ce soit un très très bon cru, en tout cas la bande-annonce fait envie. Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin qui a déjà abondamment été commenté et dont nous parlerons la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année, et puis L'amant double de François Ozon qui une fois de plus renouvelle manifestement son cinéma avec ce film. Voilà, ces films seront à l'affiche chez nos partenaires des cinémas Lumière entre autres, n'hésitez pas à aller les voir. Également dans les films que nous avons déjà couverts, À mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayana et Après la tempête de Koreeda Hirokazu, que nous vous recommandions tous les deux très chaudement, sont toujours en salle chez nos partenaires des cinémas Lumière. Cinéma Lumière qui organise ce vendredi les Nuits en Or, projection du meilleur du court-métrage mondial de l'année. Un programme qui rassemble l'ensemble des films de court-métrage, donc récompensés entre avril 2016 et avril 2017 par leur Académie nationale de cinéma, qu'il s'agisse des Oscars, des Goya, des BAFTA ou des Magritte. Voilà, ce sera donc ce vendredi soir pour les amateurs de court-métrage. C'est toujours l'occasion de découvrir un cinéma souvent extrêmement riche et diversifié. Et puis, toujours aux Lumières Bellecour, oui, alors, les courts-métrages, c'était au Bellecour, et cette fois-ci en documentaire, un film de Jean Rouch qui est projeté en version restaurée, Moi, un noir. Trois Nigériens, une Nigérienne s'installent à Trincheville, banlieue d'Abidjan, chef-lieu de la Côte d'Ivoire, comme nombre de leurs compatriotes. Ils tentent l'aventure de la ville, aventure amère pour ceux qui abandonnent leur village et se heurtent à une civilisation mécanisée. Voilà, grand documentaire de Jean Rouch. Et ce film a reçu le prix Louis Desluc en 1958. Alors maintenant, la frontière du documentaire est toujours aux Lumières Bellecour, décidément. On vous ment. Festival documentaire, qui se tiendra du 2 au 4 juin. Un festival donc qui interroge eh bien, justement les frontières entre la fiction et le documentaire. Frontières toujours très intéressantes avec deux films qui seront projetés aux Lumières Bellecour. King of the Belgians. Un film qui imagine une situation où le roi des Belges en visite d'État à Istanbul apprend que la Wallonie déclare son indépendance. Et puis H.H. Hitler à Hollywood. Enfin, je ne vous en dis pas plus parce que le scénario laisse supposer une histoire horriblement compliquée que je ne voudrais pas trop déformer en vous la résumant, mais ça a l'air particulièrement intéressant et certainement très amusant. Et ces deux films sont donc projetés le 4 juin aux Lumières Bellecour. Et puis, petit événement dans le monde du cinéma, même si nous sommes plutôt du côté des séries, ça ne sera pas pour déplaire à Pierre. Twin Peaks, hein, vous savez, la saison 3 ressort. David Lynch avait également réalisé un préquel de 2h15 à Twin Peaks, Fire Walk With Me, lequel est projeté à la fois par le Comédia toute la semaine et puis par l'Institut Lumière. Ce sera samedi, dimanche et lundi, donc autant d'occasions pour aller voir ce film. Et puis un petit David Lynch de temps en temps ne peut pas faire de mal. Puisque nous parlions du Comédia, voilà, vous pourrez également donc vous rendre avenue Berthelot ce jeudi à 18h30 pour aller voir La Nuit américaine de Truffaut, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore eu la chance de le voir, ce film qui suit les splendeurs et les misères d'une équipe de tournage dans les studios de la Victorine à Nice au moment de la conception d'un film. Film de Truffaut sur le cinéma, un film qui filme un tournage avec Truffaut comme réalisateur, bref, l'une des mises en abîme les plus célèbres du cinéma pour l'un des plus grands films de son réalisateur. On reste du côté des vieux films, pour ainsi dire, avec Man on a Tightrope de Elia Kazan, qui est projeté cette semaine au cinéma Opéra, l'histoire d'un cirque tchécoslovaque qui tente de passer à l'ouest pendant la guerre froide. Et justement, puisqu'on est à l'Est, hein, on continue avec cette rétrospective cinéma russe moment d'histoire, hein, consacré au grand cinéma soviétique pour les 100 ans de la révolution russe, avec cette semaine deux films qui seront projetés à l'Institut Arsenal d'Alexandre Dovzhenko, tout d'abord, qui se situe en 1918, tandis que l'hécatombe se poursuit sur le front, la misère accable la population. Et un déserteur incite les ouvriers de l'usine Arsenal à prendre les armes pour défendre la révolution. Et puis Okraïna de Boris Barnet, où une petite communauté russe sort de sa torpeur à l'annonce de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Appelés et volontaires partent pour le front, et à l'arrière, un prisonnier allemand se voit employé par le cordonnier local, mais l'esprit de la révolution se propage, et les soldats se mutinent et commencent à fraterniser. Deux films donc sur la Grande Guerre, deux films qui seront tous les deux projetés en ciné-concert, puisque ce sont des films muets, occasion unique de voir ces films donc, qui plus est, avec un accompagnement au piano, dans la grande salle de l'Institut Lumière. Et puis, pour terminer une fois de plus avec L'Heure du Cardinal, hein, la rétrospective n'est toujours pas finie à l'Institut Lumière. Et cette semaine, ce sont deux films assez particuliers, les deux collaborations de Claudia Cardinale avec le réalisateur José Giovanni pour Le Ruffian et La Scoumoun. C'est pas forcément les rôles où l'on s'attendait à trouver Claudia Cardinale, mais voilà, les deux films sont projetés par l'Institut Lumière. Voilà, entre autres, dans une soirée avec les deux films, ce sera mardi soir. Voilà, ça, c'est amplement suffisant pour cette semaine, je pense. et d'étoiles plein les yeux, c'est donc terminé pour ce 61e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Rémi Cerda, Anastasia Kozyreva et malheureusement pas Anna Logacheva que nous saluons néanmoins. Pour la série, Pierre Lemoël à la prise de son, montage, la réalisation, Rémi Cerda avec également Marie Blanc à la prise de son. Marie Blanc que je vous conseille d'imiter en allant consulter régulièrement notre page Facebook où vous trouverez toute une ribambelle de films à voir, d'astuces, de vidéos, de partages sur les films d'aujourd'hui, les films d'hier et la vie cinématographique à Lyon. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un dernier numéro de l'année consacré aux fantômes d'Ismaël et à Rodin, je vous souhaite à tous une bonne semaine dans les salles obscures.